Give me a C!
A!
Give me a K!
A!
What's that spell?
A!
What's that spell?
A!
What's that spell?
A!
What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning
to... Ouais, c'est... Non, ça va, on va pas passer Sweet Leaf. Les bébés dinosaures sont avec vous. Pour une heure et demie de Rock des années 70 sur les 92.2 MHz de Canal Sud dans la région toulousaine et partout dans le monde sur www.canalsud.net. Attends, elle serait meilleure si je montais le bon micro, excuse-moi.
Voilà,
je suis daltonien.
Je disais donc que ton introduction est cadre parfaitement avec un des fils rouges de mon côté. De l'émission de ce soir, figure-toi.
Oula.
Ouais.
Bon, eh ben espérons que les auditeurs ne seront pas roulés, à la différence d'autres choses.
Ça va rouler quand même.
Et en attendant de rouler, on va s'écouter des gens de l'Ohio, alors qu'ils viennent de Youngstown, qui venaient de Youngstown, Ohio. Ils s'appelaient Artist. Ce qui n'était pas très original. Ils n'ont pas fait beaucoup de disques et ils sont restés obscurs. Mais Brown Acid les a retrouvés comme Brown Acid, la série d'anthologie qui doit être à son 14e numéro maintenant. Retrouve des tonnes de trucs de rock, à la tête dure des années 70, grosso modo. Et cela, c'était 77, mais le punk n'était pas arrivé jusqu'à Youngstown, Ohio. Et on va s'écouter un morceau d'eux qui s'appelle Every Lady Does It. C'est extrait du 12e volume, du 12e CD de la série Brown Acid. Ils appellent ça The 12th Trip. We'll be right back. Every Lady Does It, nous affirme Artist. Alors ils ont dû essayer avec toutes les femmes en tout cas, pour pouvoir l'affirmer. c'est des gens qui travaillaient certainement. Donc Artist, un groupe de Youngstown, Ohio, c'était en 1977. Et c'était le genre de petite obscurité un peu crasseuse que nous adorons de temps en temps et qu'on trouve sur des compiles maintenant, comme Bonehead Crunchers ou, en l'occurrence, Brown Acid.
Et ben on va continuer un peu dans le même registre avec une obscurité un peu crasseuse, mais d'un groupe beaucoup plus connu. C'est Kiss.
Oh.
Pour la deuxième fois sur Arte en quelques mois. Enfin, oui, Arte avait diffusé un concert mais de 2017 ou 2018 de Kiss qui était quand même pas terrible. Et là, ils ont diffusé vendredi soir, hier soir, avant-hier soir. Vendredi ou samedi, je sais plus, je confonds toujours. Non, ça devait être vendredi. Dans le cadre de leurs documentaires musicaux, un documentaire sur Kiss, en deux parties, dont je n'ai regardé que la première, hein, parce que ça suffisait largement. Assez récent, visiblement, qui doit dater, qui doit avoir 2-3 années, avec Paul Stanley et Gene Simmons qui interviennent. Assez peu d'invités, tu sais, c'est souvent ce genre de docu, là où tu as plein de mecs qui commentent et qui font des commentaires dithyrambiques sur le groupe. Bon. Là, il y a juste Dave Grohl là, de Nirvana et des Foo Fighters, et puis un autre gars, je sais plus de quel groupe, Rage Against the Machine peut-être. Et il y a Eddie Kramer, le producteur, et Bob Ezrin. Deux producteurs qui, voilà, qui ont eu un certain rôle, disons, dans la carrière de Kiss.
Ça lui fait quel âge, cet homme?
Alors, bah écoute, pourtant il a l'air en forme, mais il doit plus être tout jeune, effectivement. Par contre, Paul Stanley et Gene Simmons, ils ont vieilli. Hein. Et tu as un petit bandeau qui apparaît à peu près au bout de 2-3 minutes, mais de manière totalement discrète. Peter Criss et Ace Frehley, donc les deux autres membres du groupe, ont refusé de participer à ce documentaire et se désolidarisent des propos tenus, ou quelque chose comme ça. Donc d'entrée, tu vois que bon. Effectivement, alors en gros, c'est l'histoire de Kiss vue par Paul Stanley, enfin plus ou moins quoi. Quand tu lis la biographie de Paul Stanley, tu retrouves quasiment certains commentaires mot pour mot. Donc c'est sa vision à lui des débuts du groupe. Alors je me suis arrêté aux années 80 parce que c'était déjà plus tout à fait la même chose. Après le départ de Peter Criss d'abord et puis d'Ace Frehley après, bien sûr. Mais bon, on n'apprend pas grand-chose quand même. Il y a quelques images que je n'avais jamais vues et qui sont intéressantes pour le fan, on va dire. Quelques extraits de vidéos, mais un peu trop courts toujours, malheureusement. Et quelques anecdotes, mais rien de très... en tout cas, pour ceux qui connaissent un peu le groupe, rien de très nouveau, disons. Avec quand même, ça m'a surpris, une forme d'autocritique de Gene Simmons. Disant, ah ouais, quand même, c'est vrai que j'ai un ego un peu démesuré, que des fois j'exagérais un peu, je me prenais trop sérieux. Voilà. Ah, c'est bien. Et puis, quelque chose d'étonnant, genre, je sais pas si on avait parlé de cette interview de Kiss, à l'époque il y avait encore les 4 membres originaux, vers 78-79. Je crois que c'était le David Letterman Show, je sais pas quoi, un grand show télévisé américain, où Ace Frehley était arrivé bourré comme un coin et avait passé toute l'émission à raconter des conneries, à raconter des vannes tordantes d'ailleurs, à se marrer de son rire inimitable. C'est le rire d'Ace Frehley, c'est un truc, on avait passé un enregistrement une fois dans les Bébés Dinosaures, c'est quelque chose de totalement étonnant, entre le Joker et puis le hennissement d'un cheval, je sais pas. Et donc, il n'avait pas arrêté de déconner avec l'animateur qui était tordu de rire. Hein. C'était vraiment une espèce de sketch comique totalement hilarant qu'on peut retrouver sur YouTube. Sous le regard totalement désespéré et outré
indigné.
Indigné.
Et jaloux
aussi, je pense, de se faire voler la vedette.
C'est ce qu'il explique dans son autobiographie. Il était trop bon dans les interviews, alors les autres lui en voulaient.
Mais là, c'est frappant, quoi, parce que tu as des gros plans sur Paul Stanley et surtout Gene Simmons, et tous les deux sont totalement. Gene Simmons, visiblement, est dans une colère. Il sent qu'il bout, là. Il commence à devenir complètement furieux. Il essaie d'en placer une, il se frayait le coup avec une vanne tordante et tout. C'est vrai que. Et Paul Stanley qui fait des commentaires, tu sais, très. Très convenu sur par exemple sur les fans, mais le journaliste qui lui dit, je sais plus, ces fans là qui sont là devant vous, qui hurlent, qui pleurent, qu'est-ce que ça vous fait? Ah oui, alors le Paul Stanley commence, ah oui, ah les fans, c'est notre objectif numéro un, leur faire plaisir. Là, là. Et puis t'as Miss Frey qui dit, bah oui, ils pleurent parce qu'ils ont foutu tout leur pognon dans le billet, quoi. Ils ont pris dans le ticket d'entrée, ils n'ont plus de pognon, là, pourquoi ils pleurent? Bon, bref. Et apparemment, c'est cette interview-là, c'est ce moment qui a décidé Paul Stanley et Gene Simmons de virer Miss Frey. C'est en tout cas, c'est eux-mêmes qui le reconnaissent, quoi. C'est très bizarre, quoi. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire qu'on va revenir au tout début de Kiss. Paul Stanley et Gene Simmons avaient déjà une expérience discographique. Ils avaient un groupe qui s'appelait Wicked Lester qui avait enregistré un album au Electric Ladyland, je crois, d'ailleurs. Qui n'avait pas du tout marché, c'est un truc qu'on peut trouver, bon, qui n'est pas très intéressant non plus, avec quelques brouillons de morceaux qui reprendront avec Kiss plus tard. Et ils forment Kiss, donc ils embauchent Peter Criss, ils embauchent Ace Frehley, ils répètent, et puis ils étaient tous les deux, Paul Stanley et Gene Simmons, de temps en temps, ils allaient cachetonner au Electric Ladyland en faisant des chœurs, semble-t-il, sur différents enregistrements. Et un jour, ils disent aux gars du studio, bon... au lieu d'être payé, file-nous des heures, s'il reste quelques heures d'enregistrement par-ci par-là, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on viendra, puis on va faire une maquette. Mais avec Eddie Kramer, on veut Eddie Kramer, qui était l'ingénieur en chef d'Electric Ladyland, et qui avait bossé avec Hendrix, etc., qui était un mec déjà une grosse réputation. Et ils ont réussi à avoir leur démo enregistrée par Eddie Kramer en 73, avec 5 morceaux. Et bon, c'est une des meilleures choses qu'ils aient faites. Hein. Le son est beaucoup plus cru que sur le premier album. C'est des morceaux qu'on trouvera sur le premier album. Mais qui ne sera pas produit par Eddie Kramer et qui aura un son un peu différent. Donc on va s'écouter une de ces démos enregistrées en 73. Donc juste avant en fait l'enregistrement de l'album. Hein. Peu de temps avant en tout cas. Et produite par Eddie Kramer. C'est le morceau Watching You. No, I just want to do it. Watching You. C'était Kiss donc sur leur première démo, je pense c'est la première. Il y en a eu une autre en 73 dans un autre studio, les Belles Studios. Je ne sais plus quelle est celle qui est venue en premier. Enfin, une de leurs premières démos en tout cas. Mais celle-ci enregistrée par Eddie Kramer au Electric Ladyland avant le premier album donc.
Et bien, il a travaillé aussi avec Aerosmith, me semble-t-il.
Oui, des tas de gens, oui.
Je ne sais plus. En tout cas, là, on va s'écouter du classique de chez Classique, mais un morceau qui, apparemment, alors, d'après...
C'est aussi lui qui va produire le live, le Kiss Live, c'est-à-dire le disque qui va faire exploser Kiss. Voilà, et notamment, il a été chargé de faire tous les réenregistrements, puisqu'on sait que... que le live... Et ils en parlent, ils le disent, oui, ils assument apparemment. Maintenant, en tout cas, ils assument... Le fait que oui, il y a des plantons, alors on a réenregistré les parties. Et puis oui, le son du public, le public on l'entendait pas assez, alors on a...
C'est du son de public en
voilà,
conserve.
Voilà, ils ont rajouté du son de public, des tas de ruses pour que ce soit énorme et tout, etc. Mm. Voilà, donc c'est Eddie Kramer qui était derrière le Kiss Alive 2. Le Kiss Alive 1, pardon.
Qui était un double album. Voilà. Mais effectivement, il y en a eu un 2 et puis un 3, je crois.
Ah oui, alors vous pouvez vous arrêter au 2. Hein.
Non, mais le 2 est intéressant parce que je crois qu'il y a une face qui est.
Il y a une face studio,
avec des,
voilà, avec des inédits et quelques morceaux pas mal, dont le Rocket Ride, écrit par Is Frehley, qui est un des plus gros morceaux de Kiss, un des plus énormes. Et après, je crois même que c'est arrivé jusqu'au Kiss Live 4 ou 5, je ne sais plus. Mais plus ça va, moins il faut. Hein. Les deux premiers suffiront largement.
Steppenwolf donc. Steppenwolf, c'est du classique, c'est du bien connu. Leur premier album, c'est 68, avec Born to be Wild, morceau énorme qui a été décrit très souvent comme la meilleure chanson de biker de tous les temps.
Ah, probablement, oui, voilà. Quand même. La plus connue,
et,
en tout cas.
Ça, c'est sûr. Et on va s'écouter un morceau moins dynamique, avec un tempo plus lent, qui s'appelle Desperation, le désespoir. Et qui est aussi une grande chanson quand même de John Kay, qui est d'une tristesse totale, la dépression, tu vois, enfin, te donne envie de te mettre la tête dans le four en ouvrant le gaz. Hein, mais qu'est-ce que c'est bien fait. D'ailleurs, ça a été repris peu après par Humble Pie sur leur premier album. Ouais. Ouais, ces jours, on passera peut-être une version par Humble Pie. J'ai des albums live de Humble Pie là, avec des trucs qu'on ne connaissait pas avant. Bon, on verra ça un autre jour. En tout cas, voilà la version classique de Desperation par Steppenwolf.
when you're busy night and day. Take a step in one direction, oh, and take a step the other way. So don't quit trying when you stumble. Don't give up should you fall. Keep on searching for the pathway that leads.
Steppenwolf, leur premier album avec John Kay, bien sûr, au chant. C'est la seule constante dans tous les line-up qui se sont appelés Steppenwolf dans les 30 années qui ont suivi, au moins. Et puis, je crois que Goldie McJohn à l'orgue et Jerry Edmonton, alors ça doit être à la batterie. Voilà.
Eh bien, tu avais eu un pressentiment en démarrant cette émission par une toux grasse et, et tonitruante. Parce que ça y est, on va se mettre à tousser maintenant là. Vas-y, tu peux envoyer.
Ouais. Ouais, ouais, bon, voyons. Ouais, pardon. Alors, je me suis planté, mais c'est normal, c'est Baby Dinosaur. Ça fait partie du contrat. C'est bien le morceau numéro 1 qu'il faut. Hein.
Oui.
Ouais, mais il veut pas.
Ah.
Non, ça va. Ça va, je suis dessus. Ça va, je suis dessus. Alors, attends. Maintenant, ça devrait le faire.
Yeah!
intéressant aussi. C'est quand même, je ne sais pas si ce que Sylvain a fumé, parce qu'il commence à avoir des animaux qui courent dans le studio.
C'est inquiétant. Un énorme éléphant violet. Non, en fait, c'est une petite rapiette. Là. Non, je t'assure, regarde. Bon, enfin... En tout cas, c'est sûr qu'en écoutant cette compile d'où t'es extrait, cette reprise de Sweet Leaf, il y a de quoi voir des éléphants roses multicolores voltés au plafond du studio.
Et même survoltés.
C'est sûr, ça s'appelle Marijuana's Greatest Hits Revisited. Donc c'est des morceaux qui parlent de marijuana, mais repris dans les années, alors ça doit être dans les années 90, je pense, début 90 je pense. Sur un label assez obscur qui s'appelle Rehash Records, dont le logo est une magnifique feuille d'herbe. Il y avait même une petite feuille de papier offerte dans la compile.
Moi, je n'avais pas roulé, ça, j'ai acheté l'occasion. Voilà. Ils ont dû rouler un joint avec les propriétaires précédents.
C'est possible. Alors après, c'est une forme rectangulaire, là, un peu... comment dire, assez difficile pour rouler un joint. Enfin bon, bref, c'est une autre. C'était un label qui avait une adresse, un numéro de téléphone, mais c'est barré sur la pochette. Donc, il y a une petite molécule aussi qui est dessinée. Bon, je soupçonne que ce soit le THC. Et puis, il y a quelque chose qui est marrant aussi, une petite indication. Contrairement à certaines lois, les lois sur le copyright sont bonnes. Il faut les respecter. Ne dupliquez pas ce disque. Et donc c'est une compile où il y a des tonnes de morceaux quand même tirés des 70s ou de la fin des années 60. Hein. Et dont ce Sweet Leaf de Black Sabbath l'a repris par les Storm Orphans. Avec beaucoup de groupes quand même très très obscurs, mais aussi des groupes qu'on aimait beaucoup dans les années 90. Les Go To Blazes, les Blue Chieftains, Mojo Nixon qu'on écoutera tout à l'heure, les New Duncan Imperials qui étaient toujours dans les bons coups. Et aussi Scott McAuliffe par exemple, le gars des Young Fresh Fellows qui était là. Murphy's Law aussi, donc quelques groupes connus, d'autres très obscurs quand même. Et des reprises de morceaux, alors pas tous 70s, hein, il y a des morceaux plus anciens, des morceaux de blues notamment, qui faisaient référence de manière plus ou moins directe ou cachée à la marijuana. Et donc cette compile, ça va me servir un peu de fil rouge là, sur quelques morceaux. Mais on en reparlera sûrement aussi dans les semaines qui viennent. Donc là, je répète, c'était les Storm Orphans qui n'ont pas laissé de grandes traces, à vrai dire, mais qui faisaient une bonne version de Sweet Leaf. À part qu'au début, tu as vu, c'était un bang qui s'utilisait, un petit chou bang. Là, quand
on entend des petits coups, voilà. Ça fait tousser, ça aussi.
Ah oui.
Il y a la fumée qui est concentrée.
Ouais. C'est ça.
Écoute, on va s'écouter les Modern Lovers. Alors eux, attention, j'ai pas choisi. Note, pour le contraste, je pourrais passer I'm Straight. Chanson de Jonathan Richman qui explique Hippie Johnny, il est défoncé. Il parle à une fille et il lui dit, mais ton copain, c'est un hippie défoncé, laisse-le tomber, moi, je suis straight. Dans la version que j'ai là, c'était Hippie Honey. C'est assez curieux parce que son bassiste à l'époque s'appelait Ernie Brooks.
Ah, c'est peut-être pas un hasard. Hein.
Peut-être qu'il se moquait de lui au passage. Et c'est Ernie Brooks qui signe les notes de pochette parce que c'est lui qui apparemment a retrouvé les bandes et les a filées à l'époque à New Rose. C'était en 1992. Ernie Brooks vivait à Paris. Et il dit, ah, c'est génial de trouver un label qui accepte de sortir des choses pareilles. et c'était les Modern Lovers avant 73. Vraiment le line-up d'origine. Peut-être même plus d'origine que le premier album, là, celui qui est sorti finalement en 76, mais qui avait été enregistré plusieurs années avant. Et il y a pas mal de morceaux sur ce disque qui existe en plusieurs versions, qui s'appelle Live at Long Branch, ou Live at Long Branch Saloon, qui était un club de Berkeley. Ils voyageaient quand même, les Modern Lovers. Avec donc un certain nombre de morceaux dans des versions un peu différentes, parce que Jonathan Richman les faisait évoluer, et d'autres qui ne sont pas sortis sur aucun disque des Modern Lovers, parce que Jonathan Richman est un type très prolifique, et il écrit tout le temps de nouvelles chansons, et puis les vieilles qui avaient trop vieilli, parfois, ça l'intéressait moins. Donc, on en avait passé quelques-unes, il y a un certain nombre d'années, notre émission existe depuis bien des années, vous le savez, jeunes gens, mais je l'ai réécouté récemment, et je me suis rendu compte qu'il y en avait qu'on n'avait pas passé, qu'on aurait dû. Et on va s'en passer un, qui n'est pas des bandes du Long Branch Saloon, parce qu'ils ont rajouté quelques morceaux à la fin du disque. Celle-ci a été enregistrée à l'université de Harvard dans une fête étudiante en 71 ou 12. Harvard, comme vous le savez, c'est essentiellement à Boston. Enfin, c'est à Cambridge, c'est de l'autre côté de la rivière, c'est dans l'agglomération bostonienne. Et ça s'appelle, et ça va servir aux gens qui ont trop suivi l'inspiration du morceau précédent, Wake Up, Sleepyheads. Et l'intro, normalement, si... Alors, je ne sais pas comment ils sont découpés les morceaux sur ce disque, mais si on entend le gars qui introduit le morceau, c'est John Felice, c'est pas Jonathan Richman. John Felice jouait de la guitare dans le groupe à cette époque-là. Et il y avait aussi Jerry Harrison au clavier, qui a été ensuite dans les Talking Heads. Et bon, David Robinson à la batterie, lui, il est resté dans les premières versions des Modern Lovers. Et ensuite, il a dû partir dans les Cars, je crois.
C'était une sorte de super groupe à l'envers, quoi.
Disons, c'était un groupe séminal, comme on dit. ne pas confondre avec la liqueur. donc voilà, Wake Up Sleepyheads.
I said goodbye to Anne. I tried to tell her about dreams, but she couldn't understand. She talked about Freud like he was an important man. After all that trash, I knew she didn't have a chance. I said, wake up, Anne. I say, wake up, you. I say, wake up, sleepyheads. The only time we're really awake is when asleep or dead. I said, wake up, you. Wake up, sleepyheads. I say, wake up, I couldn't remember any of my dreams last night. I say, wake up, me. Our dreams late at night are the only thing that I know is real. I say, wake up, me. Wake up, I. When we're awake, we're asleep. When we're asleep, that's when we're awake. Well, I told it all to Anne. She didn't understand. I said, wake up, sleep your head, wake up. It is so pretty, but we're half dead. I say, wait!
Voilà, Boston, c'est très joli le matin. Réveillez-vous, bande de dormiasses. Wake up, sleepyhead.
Et une fois réveillé, qu'est-ce qu'on fait? On s'enroule un autre pour la route.
Ah oui.
Et on revient sur la compile Marijuana Greatest Hits, avec une couverture sur laquelle figurent les Freak Brothers, bien sûr, les rois mages de la marijuana.
Top can get you through in times of no money, better than money can get you through in times of no dope.
Ça, c'est de la philosophie. Cette devise avait été reprise par les Shushen Brothers. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ils avaient remplacé le mot dope par le mot Shushen, bien sûr. Et donc, on va s'écouter. Alors, si, en tout cas, dans le royaume des comics, c'est les Freak Brothers quand même qui étaient là. Meilleure apologie, enfin apologie c'est peut-être pas le mot, mais disons les héros de la dope dans la musique, pour la marijuana quand même, le grand, comment dire, celui qui pendant toute sa carrière a abordé ce sujet et a lutté pour la légalisation avec la plus grande énergie, c'est quand même David Peel.
Ah oui.
Ça, alors celui-là, dans ses premières années, il n'y a pas un morceau sur ses disques qui... Enfin, je veux dire, il y a toujours au moins un morceau sur ses disques qui parle de la marijuana. Il a décliné le thème dans toutes les manières possibles. Et bien sûr, ça a laissé des traces. Et là, on va s'écouter une reprise de I Like Marijuana, qui était sur le premier album de David Peel en 68. C'est tiré donc de la compile Marijuana's Greatest Hits. et c'est par Mojo Nixon avec les Toadley Quers. Mojo Nixon, un des héros de Dig It, un des héros de notre compère Gilda, et qui lui aussi avait, je pense, un certain penchant pour ce genre de substance. I like marijuana, donc Mojo Nixon.
Hey man, I'm gonna start this song. You ain't even started shit.
Marijuana par Mojo Nixon sur l'anto de 1992, Marijuana Greatest Hits. 30e anniversaire de l'anthologie.
Voilà, c'est une bonne occasion pour la ressortir
et
des placards.
Toutes ces reprises étaient enregistrées spécialement pour le disque, je pense.
Oui, je pense, parce qu'effectivement, elles ne figurent pas dans les discographies des groupes en question. C'est une reprise de David Peel, on le rappelle.
Eh bien, nous allons nous écouter les Sons of Adam. Alors, c'est du 60s garage. Donc, nous sommes en territoire Dig It, en fait. Tu nous passeras le jingle après.
Ah, d'accord.
Quelque part, nous sommes en territoire Dig It, ouais. Mais, y a des gens, bien sûr, dans le groupe qu'on va s'écouter, qui ont continué leur carrière pendant les années 70. Ça a souvent été le cas, faut le dire. Le groupe s'appelait donc Sons of Adam. Ils n'ont jamais fait d'album, ils n'ont jamais fait autre chose que quelques 45 tours. Mais ils avaient une réputation énorme durant les deux ans de leur existence, entre 1964 et 66, à Los Angeles. Et leur guitariste était Randy Holden, qui a ensuite participé brièvement à Blue Cheer après le départ de Lee... Lee Stephens,
ouais, c'est
le guitariste emblématique des deux premiers albums de Blue Cheer. Sur le troisième album de Blue Cheer, qui s'appelle New Improved Blue Cheer, qui n'est pas génial, mais enfin, il y a une face où c'est Randy Holden qui joue de la guitare, et c'est plutôt du blues rock quand même, encore sympathique. Après, ça devient... Et puis, après ça, il a fait un album solo de blues rock déjanté qui a été ressorti récemment par comment ça s'appelle le label qui fait Riding Easy, le label qui fait la série Brown Acid. Alors, dans les autres membres du groupe, c'était Jack Tana, alors avec deux T au début, je sais pas comment on prononce. Qui a ensuite été dans le Genesis, mais pas le Genesis anglais, hein, le Genesis américain, celui qui a pas eu de postérité, parce qu'en fait ils se sont arrêtés assez vite et ils n'avaient pas assez d'argent pour faire un procès au Genesis anglais.
On les retrouve aussi, non, sur le Brown Acid ou sur les...
Et peut-être on les retrouve quelque part.
Sur les Bonnet Crunchers, je ne sais plus.
Mais ouais.
Vous avez passé il n'y a pas très longtemps. Ouais.
Et une section rythmique qui s'est retrouvée plus tard dans une incarnation de Love. Mais il y a eu tellement d'incarnations de Love, en tout cas pas dans l'incarnation originale de Love. Hein, parce que Love jouait déjà à l'époque où les Sons of Adam étaient actifs. Et les Sons of Adam ont même repris un morceau d'Afferly, Feathered Fish. Alors, on va s'écouter un morceau qui est d'eux. Ça s'appelle Mr. Sun et c'est un enregistrement live à l'Avalon Ballroom à San Francisco, un des hauts lieux, tu sais, de je sais pas ce que, comment il faut dire, de la musique à San Francisco à cette époque-là. Sons of Adam. Sons of Adam, donc, et on vous le passe parce que l'intégralité des enregistrements connus des Sons of Adam a été patiemment réuni et compilé par le label High Noon Records. Et ça va sortir sous le titre de Son of Adam's Saturday Sons, The Complete Recordings, 1964-1966. Et je n'ai pas de date de sortie, mais je pense que voilà.
Ils ont un lien avec Reading Easy, là ce...
Non, c'est High... Alors attends, High Moon ou High Noon? High Moon, je crois. High Moon Records, oui, High Noon, c'est un western. High Moon Records, non, ils n'ont pas de lien avec Riding Easy. C'est plutôt un label qui réédite des tas de musique West Coast, San Francisco, par exemple, c'est eux qui ont réédité. L'album solo de Terry, je ne sais plus comment, qui était dans Terry and the Pirates. Bref, c'est eux qui ont réédité aussi... Et voilà, c'est... J'ai trop fumé.
Ben voilà. Bon. Rien que d'écouter la compile, de toute façon, ça y est, on est stone. Mm.
Et leur attaché de presse est quelqu'un qui connaissait Digit, donc voilà, je suis encore dans sa liste d'adresses.
Eh bien, on va s'écouter le jingle Digit, parce qu'on est en plein dans la rubrique Digit, en fait, là. Mm.
Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day, Matt Busby, dig it.
Digging by Georgie Wood. And now we'd like to do Are the Angels Come.
Eh bien, on va continuer la rubrique Digit alors avec un groupe qu'on passait pas mal, en tout cas cet album-là, au début des années 2000. Un groupe danois qui s'appelait Screaming Eric. Enfin, Screaming Eric, c'était le chanteur. Parfois, son groupe se faisait appeler. Il appelait son groupe Screaming Eric and the Erections. Mais là, cet album est sorti sous le nom juste de Screaming Eric, ça s'appelait Freak Show. Je crois que c'est son premier album, il y avait quelques EP avant, 45 tours. C'est sorti vers 2001-2002, par là. C'était un copain, Lorenzo Woodros, qui intervenait sur ses disques, qui faisait des backing vocals, des fois des parties de guitare. Tu sais, Lorenzo Woodros, là, c'est...
De Baby Woodros.
Voilà, bien sûr. Et Mareuse avait quand même un côté beaucoup plus punk. Pas du tout psyché, garage punk on va dire, mais plutôt punk, c'est très speedé, très tendu, assez drôle parfois. Ils ont fait plusieurs albums, puis après, bon, on les a perdu de vue. Ils ont dû disparaître et partir dans d'autres projets. Ils étaient sur Uptown Records, qui était un label qui sortait pas mal de trucs scandinaves. Et on va s'écouter, pour rester quand même dans le thème des bébés dinos, une petite reprise d'une de leurs influences majeures. Les Stooges, c'est une reprise de Cock in My Pocket, donc sur l'album Freak Show de Screaming Eric.
1, 2, fuck your brakes! Bucket and I'm reading down the old highway. I got a women and you honey got
Rock in My Pocket. Voilà. Une chanson sur des animaux, bien entendu. Oui, sur... on va supposer.
Sans doute. Voilà, une version tonitruante par Screamin' Eric. Et c'est vrai qu'on parlait hors antenne, là, plus péchu que toutes les versions qu'on a pu entendre par les Stooges eux-mêmes, quoi, en fait. C'était donc l'album Freak Show, c'était en 2003, en fait. Et c'était donc par Screamin' Eric and the Erections. Le nom du groupe complet apparaît sur le verso de la pochette.
Eh bien, on va s'écouter Kevin Coyne. Faisons une reprise, tiens. Bah, encore une reprise. Une reprise de Bob Dylan. C'est Kevin Coyne en public en 76 dans cet album un peu curieux qui s'appelle Let's Have a Party, dans lequel il y a une face live et une face qui est une sorte de compile, mais dont la moitié des morceaux sont des trucs qui ne sont pas sortis d'un album parce que c'est des 45 tours, voire même il y a un ou deux inédits, enfin, je crois. Et cet album, donc, est une bizarrerie dans la discographie de Kevin Coyne. Est sorti uniquement en Europe. Sur la face 1, il y a deux morceaux de l'album Marjorie Razorblade, deux morceaux de l'album Matching Head and Feet, et puis deux morceaux qui sont dont deux ont dû sortir en single, peut-être il y en a un qui est, enfin, bref. Quoi qu'il en soit, nous allons écouter une partie de la face live de ce disque, qui est une reprise de Knocking on Heaven's Door, le célèbre morceau de Bob Dylan qui a dû être repris des centaines de fois.
Ça. Voilà.
Kevin Coyne.
Yeah, thank you. That's not the last one. This is the last one. Here we go. Later. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting too dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. To me, he wants to grind my bones right to the ground. But Kevin Coyne will always be free, though sometimes he's knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. He knocked, knocked on heaven's door. Jagger.
Knocking on Heaven's Door, Kevin Coyne.
Alors, on va s'écouter maintenant un original qui, dont une reprise figure sur Marijuana Greatest Hits, un morceau popularisé entre autres par Dr. Hook et puis des tas d'autres. Il a été repris plein de fois, mais qui était signé par un gars dont tu nous avais amené le disque, enfin un des disques en tout cas, Shel Silverstein.
Ah oui,
un allumé de première.
Ah oui, parce que certaines de ces autres chansons sont pas à mettre entre toutes les mains. Comme l'histoire du mec, il y en a deux. Alors tu. Il y en a deux. Il dit pas quoi, mais.
Ah oui, bah écoute, je sais pas, deux oreilles. C'est tout, c'est une histoire d'oreilles, je
c'est,
pense.
C'est la plus, sauf que la plupart des autres n'en ont qu'une.
Ah, alors, je sais pas. Neurones, des neurones peut-être.
Ah oui, oui, oui.
Et puis il a aussi écrit, bien sûr, I got stone and I missed it. Non, les paroles sont quand même absolument géniales. Il y a trois couplets, le premier couplet, je crois. Alors, bien sûr, bon, bah, c'est l'histoire d'un gars qui se roule un gros pétard. Et puis, dans le premier couplet, si je me souviens bien, c'est un copain qui l'appelle. Viens, il y a un gars au coin de la rue qui distribue des billets et tout. Viens vite. Et puis, merde, il y va pas. I got stone and I missed it, il loupe le truc. Et puis dans le deuxième couplet, il rencontre une jeune fille. Et alors, quand le lendemain, il se réveille, la fille lui dit, alors, comment t'as trouvé ? Ah oh, ben, je sais pas. I got stone and I missed it. Et merde. Oh, il désespère un peu. Et puis à la fin, dans le dernier couplet, je pense qu'il est prêt pour le grand départ. Il passe l'arme à gauche et puis il dit, bah si un jour on m'interroge, alors, et ta vie, comment elle était? Bah, je sais pas. I got stone and I missed it. Voilà, c'est nous, et nous, quand on se plante, j'ai oublié de ne pas lancer le bon truc. Mais ah oui, I got stone and I missed it.
Et c'est la raison pour laquelle on ne sait pas si on a déjà passé ce morceau.
Ah, bah, voilà, ouais. C'est ça.
Mais on sait que Shel Silverstein a eu plusieurs carrières. Donc il était musicien, auteur de chansons. Il a écrit pour d'autres, je crois qu'il a écrit pour Loretta Lynn, par exemple.
C'est ce que tu nous avais dit, oui.
Et il a aussi, je pense, fait des livres pour enfants, non ? Quelque chose comme ça.
Oh là là !
Oui, non, mais avec un contenu un peu différent. Et puis, je crois qu'il a été comédien, quoi, pas seulement chanteur. Voilà.
Voilà donc un extrait de, je pense, ce qui était son premier album, The Freakin' and the Freaker's Ball, en 72. I got stone and I missed it.
Oh yes, boys, play it sweet for me. I was sitting in my basement. I just rolled myself a taste of something green and gold and glorious to get me through the day. When my friend yells through my transom, grab your coat and get your hat, son. There's a nut down on the corner. I give them dollar bills away. But I sat around a bit and then had another hit and then rolled myself a bomber, thought about my mama, looked around, fooled around, played around a while and then
I got stoned and I missed it. I got stoned and I missed it. I got stoned and it rolled right by. I got stoned and I missed it. I got stoned. Hold me alright.
It took 7 months of urging just to get the local virgin with a sweet face up to my place to fool around a bit. And next day she woke up rosy and she snuggled up so cozy. But when she asked me how I'd liked it, Lord, it hurt me to admit
I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned.
Yes, I was.
And it rolled right by.
Yes, it did.
I was stoned.
Oh, yes, I was.
I was stoned. I was stoned. Hold me, oh my.
Go get it now.
no excuses for the many things I uses just to brighten my relationships and sweeten up my day. But when my earthly race is over and I'm ready for the clover and they ask me how my life has been, I guess I have to say,
I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned.
Yes, I was.
And it told me.
Aïe, aïe, Shel Silverstein, on s'en lasse pas, hein.
Ah, génial, ouais.
Et par contre, Dr. Hook, c'était un peu des nuls, hein. Ils ont repris quelques bons morceaux, mais leur propre truc, c'est...
Ouais, mais on s'écoutera quand même une version, peut-être tout à l'heure, ouais, on devrait avoir le temps, de ce morceau qui est quand même, finalement, un de leurs grands morceaux à Dr. Hook, mais il n'y a pas deux, bien sûr.
Bah oui, oui, bah non, aucun des morceaux qui ont eu du succès ne sont deux. Hein.
Voilà, mais bon, ils avaient un certain talent pour bien choisir les reprises, et puis pour en faire des versions, ma foi, sympathiques, disons.
C'était des clowns compétents.
Ah, oui, oui, voilà, bah, effectivement, c'était pas des génies, ça c'est sûr. Mais tu vas voir, ils ont une version live qui est assez marrante.
Eh bien, on va s'écouter Pacific Drift, qui eux ont eu encore beaucoup moins de succès que Dr. Hook. En fait, je connais qu'un seul disque, et c'était celui qui était distribué gratuitement dans les stations en tard, au début des années 70. De la même manière que Jig a Jig de East of Eden. Il y avait 4, je sais plus, 3, 4, 45 tours que tu pouvais avoir quand tu faisais le plein ou quand tu avais suffisamment de tickets ou des trucs de ce style, tu sais, des opérations promotionnelles. Et bref, donc on le trouve facilement dans les brocantes, tu vois. Pacific Drift, et on avait passé la face A qui s'appelait Water Woman, je crois, et là on va passer à la face B qui s'appelle Yes You Do. C'est un 45 tours pourri, c'est notre 45 tours pourri de la soirée qui date de 1971.
Thank you.
Eh bien, voilà, c'était Yes You Do par Pacific Drift. Rien d'autre à dire, hein. Ils étaient quatre. Ils avaient les cheveux longs.
Oui, ils faisaient une musique un peu générique, mais pas désagréable.
Hey, c'est le baby dinosaure.
Voilà. Bah, Dr. Hook, c'est un peu pareil.
On balaye dans les coins.
C'est un peu générique. Entre, je sais pas, West Coast, blues rock. Mais des bonnes reprises. Et puis, c'était des gars plutôt drôles et sympathiques, on va dire. Et ils ont eu quand même un certain succès. Hein. Alors, on va écouter une version live de I Got Stoned and I Missed It, qui est sûrement la meilleure chose qu'ils aient chantée, hein, mais qui, évidemment, n'est pas d'eux, puisqu'on a écouté l'original tout à l'heure. Ils l'ont repris en 75 sur leur album Bankrupt. Mais là, on va écouter une version live à la BBC, plus tardive, de 1980. Et alors, au milieu de la chanson, ils font le coup du « Tout le monde s'assoit, tout le monde s'assoit ». Tu sais, et puis au bout d'un moment, tout le monde va se relever en braillant. C'est peut-être un gimmick qu'on avait redécouvert effectivement avec les Flaming Sideburns. c'était assez génial quand même. Et après, il y a d'autres groupes qui ont fait le coup, sans doute en s'inspirant des Flaming Sideburns, parce que d'autres groupes de la scène underground. Mais bon, là, quand les Flaming Sideburns l'avaient fait, surtout ce qui était intéressant, c'était que quand on se relevait, c'était parce que la machine repartait à 100 à l'heure. Et donc, ça mettait un peu de peps là, dans le concert. Et bien, ils font le même coup, là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et puis après, on va compter jusqu'à 7. Et vous allez jusqu'à 7. Et vous allez tous vous relever en braillant « I got stone !» Ce qui est à voir, ça marche plutôt pas mal. C'est donc leur reprise de Shel Silverstein, enregistrée live à la BBC en 1980, Dr. Hook.
Yeah, I want to talk to all these people for a minute. Now listen, we are all guilty of making mistakes in our lives. We've all made mistakes, probably made the same mistakes, but made them in different ways. As a matter of fact, I know that all of us at one time or another have been just a little bit too stoned. That's all the people that say. That's what this song is all about. So I want y'all to come on and help me out now. Yeah. All right, baby.
I was sitting in my basement. I just rolled myself a taste of something green and gold and glorious to get me through the day. When I bring you through the transom, I grab your coat and get your hat, son. There's a nut down on the corner giving dollar bills away. But I sat around a bit and I had another hit. Then I wrote myself a bomber and I thought about my mama. Then I fooled around, messed around, jacked around a while and then I got stoned and I missed it. I got stoned and I missed it. I got stoned. A virgin, just to get that local virgin with a sweet face up to my place to fool around a bit. Well, next day she woke up rosy and as she snuggled up so cozy, when she asked me how I liked it, it hurt me to admit. I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned. We'll be right back.
fixes for the many things I uses just to sweeten my relationships and brighten up my day. When the earthly race is over and I'm ready for the clover, when they ask me how my life has been, I guess I'll have to say, I was stoned
and I missed it.
I was stoned. Chair, I'm gonna sit down, and now we all sit down. Well, I know we ain't all sitting down. Man over here standing up, big old tall man too. Now here's what I'd like to do if I could get everybody in the, don't stop that. That's good. Now what I'd like to get everybody to do, all the people at home, whatever you're doing, and all you people up here in the audience, first of all, this is John Walters back here on the drums. Johnny? Now, John is going to give us 7 beats on the drum. We're going to count the beats together. And when he gets to 7, we're going to all stand right up, put our fist up in the air and say, I was stoned. And then we're going to sit back down. All right, listen, do y'all want to do it?
Yeah!
All right, give me the beat, John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
I was stoned and I missed it. I was stoned and I missed it. I was stoned and it was my fault. I was stoned and I missed it. I was stoned.
All right, listen, everybody just stand up right where you are. That'll be good. Just move it around a little bit.
Stone and I Missed It, donc de Shel Silverstein, repris par Dr. Hook, live en 1980. Voilà, une version un peu polissée, effectivement, mais assez amusante quand même.
Eh bien, il est temps de passer le jingle de la mort que tout le monde nous envie. Et ce soir, à tout seigneur, tout honneur, on va passer à un morceau du groupe qui est l'auteur de la première partie de ce jingle, Horse Lips. Alors l'auteur, c'est probablement un morceau traditionnel, mais ce qu'on vous passe, c'est leur version. High Reel. Et bon, on va se passer autre chose de Horse Lips, et un truc qui est inédit, parce que Matt Fish, le label fou, qui avait déjà fait les énormes box sets, les énormes coffrets des Pretty Things, et le Wish Bonash, et d'autres groupes aussi, et qui te, c'est les genres de gens qui te vendent les rééditions de luxe de tel ou tel album en double vinyle, machin bidule, etc., avec tirage limité. Enfin bref, ce genre de produit pour les addicts. Et bref, ils vont sortir un coffret de 35 CD de Horse Lips.
Alors comment ils font pour avoir 35 CD? Ils ont fait tant d'albums que ça?
Non, c'est l'intégrale des albums qui doivent avoir une. Entre 10 et 15, plus tout un tas de concerts.
D'accord.
Bah, c'est pareil, c'est la même formule que pour Rich Monash, en fait. Et puis, donc, il y a un petit sampler qu'ils ont envoyé en avance du truc. Et sur ça, il y a une version live d'un morceau qui devrait être très connu de nos auditeurs, en particulier ceux qui sont bretons, ne serait-ce que de l'ongle d'un orteil. Parce que c'est une version assez grand public de la brutonitude, disons-le tout de suite. Et on va se l'écouter. Mais il faut être patient, je crois que le morceau, on le reconnaît qu'au bout d'une minute et demie d'intro. Voilà.
J'avais peur que tu dises au bout d'une demi-heure.
Non. Horse Lips, donc, en public.
All right, there's only one way to follow that one. And it's with this one. We'll
Allez, et voilà, King of the Fairies, les nostalgiques de l'album Live à l'Olympia d'Alan Stivell, qui est sorti, je crois d'ailleurs, il me semble, il y a 50 ans, en 72, auront reconnu avec un peu d'émotion, ou peut-être un peu d'agacement, parce que c'est une version assez, comment dire, personnel de ce morceau qui est joué par House Lips. Bon, les bébés dinosaures, c'est fini. Faut quand même les meilleures choses et même les pires ont une fin. On vous rappelle que vous êtes sur Canal Sud 92.2 MHz à Toulouse et dans ses environs, que sur Internet partout dans le monde, c'est www.canalsud.net et que sur ce magnifique site, non seulement vous avez un player qui vous permet d'écouter l'émission, mais vous avez aussi le site de la radio dans lequel il y a des archives sonores qui vous permettent de soit d'écouter en streaming, soit de télécharger tout un tas de MP3 des émissions précédentes. Et donc, on vous encourage à le faire, c'est gratuit. Il y en a environ 500 en stock. Allez-y, piochez au hasard, faites ce que vous voulez. N'en piochez aucune, ça ne change rien pour nous. On vous rappelle aussi que l'émission est rediffusée le lundi de 15h30 à 17h sur les mêmes coordonnées. Et on vous dit à dimanche prochain où Sylvain sera absent, mais c'est pas grave, Tommy Boy va tenir la boutique. Et il y aura un bébé dinosaure avec peut-être plein de rock hongrois et de Deep Purple. Ça, c'est possible.
To come back. I want him to come back.
Don't go away.
Yeah.